Salut à tous, vous écoutez Cinécast pour une émission assez spéciale pour clôturer cette année 2018. C'est notre top et nos flops. Alors le flop, on va pas le faire de manière très voilà, on va pas, il y aura trois films dans le flop, qu'on fasse très clair, mais on va se concentrer sur le top avec nos invités puisqu'on a fait un top combiné de plein de personnes. Il y a Thibaut Van de Werf comme chaque semaine. Salut Thibaut.
Coucou Guillaume.
On a Constant Carbonel qui est là.
Bonjour.
Et Eric Van Cutsem.
Bonjour.
Nos invités, nos habitués, j'ai envie de dire.
Maintenant, t'as fait le même bonjour que moi, Eric.
Oui, je sais, j'essaye de t'imiter aujourd'hui.
On en est là, c'est décontracté. On est là tranquille, petit verre de cava. On célèbre la fin d'année tranquillement, comme il se doit. Ou jus d'orange, chacun son choix, il n'y a pas de problème. Et on va parcourir ensemble un truc assez spécial. On a chacun un top 10 pour cette année, mais on a combiné les top 10. Et autour de cette table, moi et Thibaut, on est au courant du top 10 final de Cinécast. Attention, ça, vous avez votre propre top 10, il n'y a pas de souci. Mais il y a un top 10 de Cinécast. Et on a combiné celui de Constant, celui d'Eric et aussi celui d'Élise qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est dans nos cœurs en cette journée.
Élise, bisous, bisous.
C'est beau.
Donc je propose qu'on commence et je vais laisser la parole à Thibaut pour démarrer sur le 10e film. 10 jusqu'à 1 forcément. Ça démarre par un ex-écho, n'est-ce pas?
Ben oui, un ex-écho de deux très bons films qui sont Phantom Thread et The Shape of Water, que je pense que vous avez vu tous les deux. Eric, il était dans le tien, Phantom Thread?
Oui, tout à fait. Il n'était pas dans le mien, non?
Non, pas dans le tien.
Non.
Pas dans le mien non plus. Mais il est dans mon top 20 quand même.
On va laisser Eric dire
il est,
pourquoi.
Il est dans mon troisième ou quatrième, quelque chose comme ça, oui.
Quelque chose comme ça, je pense, oui.
Ouais. Tout à fait.
Laissons Eric expliquer pourquoi est-ce qu'il est dans son top,
pour le coup.
Mais écoute, y a une raison très simple. Hein. Ça s'appelle Anderson, la raison très simple. Non, c'est un réalisateur extraordinaire qui, effectivement, dans chacun de ses films, propose quelque chose de tout à fait éclectique, tout à fait différent à chaque fois, en marquant de sa patte quand même sa réalisation. Et je dirais, dans Phantom Thread, non seulement la réalisation est très bonne, mais tout ce qui est interprétation est magnifique. Et bon, j'aime bien ce côté un peu ambigu de tout le film sur une relation amoureuse dominant-dominée qui est très très bien faite, très subtilement amenée jusqu'au moment final où il y a un retournement, disons où on comprend la vraie relation entre les deux personnages. Donc voilà, c'est effectivement un de mes coups de cœur de 2018. Il n'était pas dans le top 1, mais il était quand même dans le top 5, certainement, si je me rappelle bien, de mémoire en tout cas.
Bah, oui, comme je disais, il n'était pas dans mon top 10, mais dans mon top 20. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterai une petite note sur la musique de Johnny Greenwood, qui est absolument fabuleuse, comme à peu près toutes les bandes originales de Johnny Greenwood, qui est donc le guitariste de Radiohead, et qui, je trouve, a encore fait une petite beauté, une petite perle cette fois-ci.
Mais moi, j'avais justement quelques réserves sur le film. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les interprétations sont magistrales, comme toujours, surtout Daniel Day-Lewis, et la réalisation aussi superbe. Mais en fait, c'est l'histoire en elle-même qui ne m'a pas botté plus que ça, en fait.
L'autre film qui est dixième dans ce cas-ci, c'est donc The Shape of Water, ex aequo avec Phantom Thread. Shape of Water, c'est un film qui, moi, au début, quand je l'ai vu cette année, je le mettais dans mon top 3. Personnellement, je disais, ah ouais, fantastique, Guillermo del Toro, avec cette femme qui tombe amoureuse d'un poisson, c'est quand même assez particulier. Dans cet univers un peu fantaisiste et tout. Et au fur et à mesure de l'année, c'est vrai qu'il s'est rapproché aussi dans mon top 10, c'est très proche en fait du mien, il s'est rapproché de la 9e, 10e place, parce qu'il a mal vieilli pour moi ce film, dans ma conscience, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il était trop hype au moment de sa sortie, il y avait trop de buzz ou autre, mais il a un peu moins passé maintenant le temps.
Je me suis dit exactement la même chose que toi, quand l'année a commencé, je me suis dit waouh, quel bon début d'année 2018, ce film va être dans mon top 3, top 4, top 5, et puis comme toi, il a perdu de la place car d'autres films sont arrivés, voilà, finalement.
Bah, cela dit, il est quand même encore là, alors qu'il était au début d'année, au mois de janvier. Phantom Thread, pareil, sorti au mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Et il y a d'autres films qui sont sortis au début d'année qui sont dans ce top 10, donc C'est toujours un peu le débat, en fait. Est-ce que les films du début d'année, on s'en souvient encore à la fin, alors qu'on a parfois eu déjà des nouveaux films venus de Venise, etc., qui sont sortis entre-temps. Et je trouve que cette année, c'est quand même plutôt assez bien équilibré. Vous le verrez par la suite, mais il y a vraiment de tout. Donc pas mal de films du début d'année, mais aussi des films de Cannes, etc., puis l'un ou l'autre film de Venise. Enfin, cela dit, les films du début d'année sont souvent des films de Venise aussi, donc il y a quand même pas mal de bonnes choses. Et chez Pauvoteur, je suis très content qu'il soit dans ce top 10 final, parce que c'est un des plus beaux films de Del Toro, je trouve, une de ses fables fantastiques, les plus belles, avec une superbe direction artistique, une histoire très classique, mais qui est hyper efficace. Elle fait partie de l'histoire du cinéma, ce genre d'histoire. C'est plus classique que ça, tu meurs. Et je trouve que ça fonctionne encore super bien en 2018. Donc très très content que chez Pauvre Auteur soit là.
Oui, moi je suis content aussi. Allez, je ne vais pas gâcher l'ambiance là. On va rester dans la même ambiance.
Tu peux avoir des réserves.
Hein, non, j'ai pas de réserve. C'est un film très poétique. Je le mettrai pas contrairement à toi, je le mettrai pas dans le meilleur film ou dans les meilleurs films de Del Toro. Mais parce que peut-être que j'aime un peu son côté un peu plus horrifique parfois et un peu plus sombre.
C'est plus Hellboy, voilà, le Labyrinthe de Pan.
Ou même Labyrinthe de Pan, parce qu'effectivement, il y a un côté plus sombre que je préfère. Mais il faut bien reconnaître que le côté poétique du film m'a emporté à fond et j'ai jamais eu d'hésitation. Maintenant, on parlait tout à l'heure du déroulement de l'année. C'est vrai que c'est un film de début d'année, mais comme tu dis, il y en a d'autres, que, en tout cas, qui étaient dans mon top et qui étaient du tout début de l'année. Moi, j'ai trouvé cette année une année, et je reprends tes termes, une année équilibrée, mais c'est une année, je sais pas dans votre cas si c'est ça aussi, mais je trouvais que c'était une année où il n'y avait pas tant que ça de très grands films. Il y a beaucoup de films moyens. Hein, beaucoup de films. Alors il y a des films
un peu trop,
ça, on en
même,
parlera
hein.
Après, mais il y a beaucoup de films moyens et où voilà, ils sont pas venus bouleverser. C'est un peu ça que je veux dire, c'est qu'ils sont pas venus bouleverser mon top dans cette année. Finalement, j'avais des films que j'aimais beaucoup au début de l'année, bah ils sont restés. D'habitude, j'ai des films que j'aime beaucoup dans l'année, au début de l'année, et que bah ils s'en vont au fur et à mesure parce que j'en ai que j'aime encore plus dans l'année. Voilà, donc je.
Moi, je trouve que c'était assez équilibré cette année.
Oui, c'est
contrairement
ça.
À toi. Mais je veux dire, étalé au niveau de l'année, au fur et à mesure, il y a pas mal de films du début d'année, mais pas mal de films du fin d'hiver, début de printemps aussi. L'été, il y en a moins, mais bon, ça c'est normal. Il y a moins de sorties très intéressantes en été aussi. Donc non, moi je pense que dans mon top, les sorties sont plutôt étalées. Ce qui est assez rare, parce qu'en général, tu as des trous d'air énormes, alors que là. On a eu un bon Cannes, quoi qu'on en dise. On pourra en reparler encore des heures et des heures, mais je trouve qu'on a eu un bon Cannes.
Très équilibré aussi.
Très équilibré, et d'ailleurs, vous...
C'est le mot de l'émission, équilibré.
Oui, voilà.
On le verra dans le top. Il y a, je vois, un, deux... Il y a quelques films de Cannes, peut-être moins qu'on aurait pu le penser, mais il y a quand même des films de Cannes. Tous les films des Oscars ou films étrangers sont de Cannes ou de Venise. Donc, voilà, bonne année de festival. Bonne année de blockbuster aussi, quand même. Donc, non, moi, je trouve que c'était une plutôt bonne année dans l'ensemble.
Non, mais les blockbusters, on en reparlera. Je pense qu'on va devoir en reparler.
On va passer au 9e, qui est un film français.
Brillantissime.
Constant, je pense que tu vas pouvoir me dire c'est quel film.
Jusqu'à la garde.
Tout à fait.
Oh, mais je suis un peu déçu qu'il soit aussi loin, mais...
Oh bah bravo!
Parce que en tant que film français, ça a été un de mes chocs cinématographiques de cette année. Et donc je suis un peu surpris qu'il soit aussi loin. Je crois que je l'avais mis en 5 ou 6e. Mais voilà, cette fin de film m'a suffoqué en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai été happé par le film de A à Z. C'est un crescendo en fait de drame familial et voilà.
Et toi, Eric, qu'est-ce que tu en avais pensé?
Moi, c'est un film que j'ai pas vu.
Donc, ah, tu l'as pas vu. Mais moi non plus, du coup, voilà. Je peux pas me prononcer là-dessus.
Je peux pas me prononcer.
Mais si tu l'avais vu, il serait dans ton top, je pense.
C'est possible.
Par contre, c'est important de préciser que dans le top 10, il n'y a que deux films français. Donc, c'est un des deux films français qui a été retenu. Il y a un film belge aussi, c'est différent. Mais c'est vrai que dans ce film-là, si je me rappelle bien, Thibaut, tu m'en avais parlé, il y avait une grosse performance de Denis Ménochet, en grande partie. Et une fin de film assez poignante, assez en tout cas bouleversante.
Bah, c'était assez estomacant parce qu'il y a énormément de... Enfin, c'est très viscéral, il y a énormément de tension à la fin du film. Bon, on va pas dire ce que c'est exactement, parce que je pense que ça vaut la peine de voir ce film. Et donc, il faudrait pas avoir la fin gâchée. Mais oui, effectivement, Denis Ménochet était très impressionnant, mais tout le casting, Léa Drucker était très bien, et le jeune garçon qui jouait
le jeune garçon aussi.
Assez incroyable aussi. Donc, c'était vraiment une très très bonne surprise. C'est Xavier Legrand, je pense, qui a réalisé le film.
Exactement, oui.
Qu'on n'attendait pas vraiment. Et puis, c'est à Berlin qu'il est sorti. Non, à Venise, l'an dernier, qu'il est sorti du lot, je pense. Et puis, qu'il se fait remarquer. Et là, que dans les salles, il a eu beaucoup de succès. Donc, je pense que effectivement, c'est un des meilleurs films français de ces dernières années. Et sa place est complètement méritée. Tu es content quand même, Constant ?
Je suis quand même content. Allez, on le cite, je suis quand même très content.
Allez, ça va, c'est sauvé. En 8e position, un autre film, je sais que tu l'as vu. Eric, je pense aussi, mais je ne suis pas sûr. Et j'espère que tu vas le rattraper rapidement. Roma, d'Alfonso Cuarón.
Pas encore vu, mais je vais le rattraper. Pas encore vu.
Bon, Constant, dis-moi ce que tu as
pensé de
Roma.
Oui, moi j'ai eu l'occasion de le rattraper au Cinéma Palace.
Mais il n'était pas dans ton top 10, hein, cela dit.
Il n'était pas, il était peut-être en 11e place, mais en fait... c'est pas que j'ai été déçu pour qu'il soit pas dans mon top 10, c'est que je m'attendais à être beaucoup plus ému en fait. Et finalement, cette fresque familiale est un peu est très 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 belle. Les images, Alfonso Cuarón s'est filmé vraiment magistralement. Mais voilà, il y a eu l'émotion en moins et en fait, j'étais en train d'être un spectateur normal devant un film normal finalement. Donc voilà, un petit peu déçu pour ça.
C'est triste. Tu me fais de la peine, là, Constant.
Ouais, mais bon.
Moi, je suis un peu déçu qu'il soit seulement en 8e, mais c'est comme ça. Je trouve que c'est un des plus beaux films de l'année. J'espère que, notamment lors des votes d'associations de critiques, ce film ressortira quand même un peu, parce que voilà, il y a...
Mais explique-moi pourquoi il est un de tes meilleurs films de l'année.
Alors, je vais pas te refaire toute ma critique, hein, mais... mais je trouve que cette histoire, c'est une chronique familiale assez simple, mais qui est superbement bien filmée. Et je trouve que par la mise en scène de Cuarón, il parvient à faire en sorte qu'on s'intéresse énormément au personnage, qu'on est quand même, je trouve, fort touché par ce qui se passe. Alors que ça a l'air parfois hyper banal ou ça a l'air de rien. Mais bon, il y a quand même un père absent, il y a une muchacha qui doit faire avec sa grossesse et la vie quotidienne de la famille dont elle s'occupe. Donc, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il y a quand même pas mal d'événements assez poignants, assez importants et surtout superbement bien filmés. Quoi. Donc, Cuarón, en quelques plans tout con, il te fait passer énormément de choses. Il transmet énormément d'émotions, donc je trouve que c'est une très très belle réussite. Et le Lion d'Or était entièrement, amplement mérité pour le film. Quoi.
Bah, c'est intéressant de dire une petite chose, c'est quand même qu'effectivement, il est sorti en Belgique. On a eu la chance de le voir sortir dans une des salles de Bruxelles, et que c'est un film de Netflix. Donc c'est peut-être la première fois qu'on va avoir, justement dans l'association de journalistes, un film Netflix qui sera en... retenu ou en top 10 à voir. Oui.
Moi j'avais mis 22 juillet quand même aussi, hein, que j'avais adoré, qui était aussi un film Netflix. Là.
Ah ouais, ouais.
Mais j'espère, Eric, que tu iras voir ce film avant de transmettre ton top 10.
Mais j'ai déjà transmis mon top 10, donc, mais bon, je le défendrai à l'UCC. Je l'aurais vu avant d'avoir...
J'espère bien.
Voilà, tout à fait.
J'espère bien, parce que je pense que c'est un film... le monde du cinéma est en train de vivre des changements quand même assez importants, donc... Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout cela ? Je pense qu'il y a des débats à avoir là-dessus. Et refuser un film comme Roma, ça serait assez dramatique.
Oui, tout à fait.
Avant qu'on ne continue et qu'on passe au septième film, je propose que vu qu'on a un flop 3, qu'on insère de temps en temps un des films du flop, donc on va commencer par le 3.
C'est une bonne idée.
Comme ça, on n'est pas que sur le positif.
Comme ça, on change, parce que là, on parle de...
Comme ça, on peut s'énerver, parce que là, pour l'instant, on est consensuel.
Comme ça, on est équilibré.
C'est un peu dommage.
Ça va vite changer, t'inquiète pas, Eric. Donc, du coup, je me suis dit, on va commencer par un flop cette année, peut-être pas par le premier, mais par le troisième dans ce cas-ci, vu qu'on en a que trois. C'est le 15h15 pour Paris. Film qui... Enfin, c'est le 15-15, on va dire ça comme ça.
C'est pas le 15-17.
Ah, tu t'es trompé. Le 15-17 pour Paris, pardon. qui est un film, un film qui avait notamment, il avait repris les mêmes personnes, les vraies personnes qui avaient vécu cette attaque
ça,
du train.
C'est peut-être ça le hic en fait.
Voilà. Et personnellement, je l'avais pas vu, mais c'est vrai que j'ai entendu parler directement dès sa sortie. Déjà, ils avaient pas montré le film, je pense, avant la veille ou quelque chose comme ça, pour être sûr qu'on en parle pas entre guillemets, n'est-ce pas, Eric?
Oui, c'est ben oui, mais hélas, c'était. Autant on a pu adorer Clint Eastwood pour toutes ses dernières réalisations et se dire que c'est vraiment un brillant réalisateur, même si c'est un réalisateur qui, on sent qu'il a de l'expérience, c'est-à-dire un réalisateur qui n'est pas toujours dans la mise en scène qu'on fait actuellement. Mais bon, par contre, ça reste un réalisateur très, très solide. Ici, ce 15h17 pour Paris était... un amalgame de choses et de sentiments et de bons sentiments, on va
aussi,
dire. Pardon ?
Le patriotisme.
Oui, aussi. Et c'était vraiment très, très dur à voir jusqu'au bout. Et je dirais peut-être, et là, ce n'est pas forcément l'avis de tous les spectateurs parce qu'on oublie parfois qui a réalisé, mais quand on reste en tant que critique, on reste avec en tâche de fond le fait que c'est Clint Eastwood qui a fait ça. C'est encore pire que si c'était un film fait par Monsieur Tout-le-Monde. Quoi. Donc, je dois dire, j'ai vraiment, vraiment souffert pendant ce film et j'étais vraiment un peu furax à la sortie. Donc, on va arrêter là pour ne pas être très méchant. J'attends avec impatience son prochain.
The Mule.
The Mule, voilà. En espérant qu'il retrouve son côté très fort en termes de mise en scène, quoi. Parce que, en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on peut discuter à propos de l'histoire qui était une histoire basée sur des faits réels, mais c'est même pas ça, c'était la mise en scène qui était un peu indigente et ça, c'était vraiment dommage, quoi.
Bah, l'histoire, je pense qu'elle était quand même un peu légère que pour en faire un film entier, déjà. Mais effectivement, la mise en scène était décevante, pour dire, pour dire ainsi. Mais... effectivement, les comédiens, pas terribles. C'est triste à dire, ils jouent leur propre rôle, mais ils sont pas très bons. Et puis, cette espèce de carte postale de l'Europe pour Américains qui découvrent l'Europe, c'est horrible.
Ils n'ont pas quoi raconter de plus, donc ils ont été insérés
c'est ça,
des scènes dans chaque pays. Voilà.
C'est tellement inconsistant qu'ils doivent ajouter un peu tout et n'importe quoi. Et ça donnait un résultat...
Oui, c'était une carte postale exotique pour les Américains. Et effectivement, c'était assez, assez pénible. Et en plus, il essayait de coller à la réalité, et encore plus en faisant jouer les gens dans leur propre rôle, finalement, les gens réels dans leur rôle de fiction. Et c'était pire parce que finalement, il n'arrivait pas à amener de la fiction dans son scénario. Donc, ça restait trop collé à la réalité, sans être un documentaire. Enfin, oui. On ne va pas insister plus. Ça s'appelle raté, en fait.
Dans ce cas-ci, bien raté.
Bien raté.
C'est clair, on attend la suite. Passons au septième film, Ex Aequo, dans ce top. Donc, il y en a deux à la septième place. Il s'agit notamment du Grand Bain de Gilles Lelouch et de Mission Impossible 6, Fallout. Film d'action, alors là, je vois qu'Eric a envie de dire quelque chose.
Moi ? Rien du tout.
Rien.
Vraiment, non.
Peut-être pas d'accord, peut-être.
Non, non, j'ai rien à dire. Je vais laisser parler Thibaut, parce que je pense qu'il...
Oui, mais on va pas le laisser parler trop longtemps, parce que sur Mission Impossible, il va pouvoir s'éterniser, sinon.
Non, mais... Tu as raison, sinon on va pas faire le top 10, en fait. C'est vrai, c'est juste. On va le couper. Hein.
Le problème d'Eric, c'est juste qu'il a des réactions épidermiques envers Tom Cruise. Donc son avis, c'est même pas contre Mission Impossible, c'est juste contre Tom Cruise.
Je n'ai pas d'avis épidermique, comme tu dis, mais pour moi, il ne fait pas partie du top, donc voilà.
Mais montrez-moi des films d'action... avec un côté aventure, film, avec un côté espionnage.
Un blockbuster, tu veux dire?
Non, pas forcément. Mais montrez-moi un film de ce calibre, aussi bien réussi et intelligent que les deux derniers Mission Impossible. Et après, on en rediscutera. Mais en attendant, je trouve que ça fait partie complètement du haut du panier. D'un point de vue dramaturgique, c'était hyper intéressant. Parce qu'on commence vraiment à suivre les mêmes personnages depuis quelques épisodes. Et je suis désolé, mais... c'était clairement du haut niveau. La mise en scène était dingue. Tom, c'est le meilleur pour faire les cascades au monde.
Oui, parce qu'il s'est cassé le pied, c'est
grand moment.
Voilà.
Mais je pense que, bon, la dramaturgie, etc., bon, ça, on peut peut-être passer. Je ne crois pas que c'est le but du film. Mais par contre, je trouve honnêtement, et c'est pour ça qu'il était dans mon top 10 aussi, c'est d'ailleurs sans doute pour ça, en termes de points, qu'il est monté dans le classement. vu qu'on a combiné tout le monde. Voilà, je trouve que passer un moment comme ça au cinéma où on a des images, des séquences qui peuvent rester dans la mémoire, je pense la scène de la moto dans Paris, pas l'hélicoptère, même pas ça, mais vraiment cette séquence de grosse poursuite dans Paris, pour moi c'était quelque chose qui m'avait vraiment, ça m'avait scotché. Je me suis dit, oula, on sent qu'au contraire, tu parles de films de super-héros, etc., on est dans un monde où en effet aujourd'hui les effets spéciaux sont partout, quand on voit des films Marvel on a envie de vomir presque, ou bien des Aquaman ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Et là, personnellement, tu vois encore ce côté, on va faire un film d'action à l'ancienne, et le cinéphile qui est en moi aime beaucoup ce genre de démarche-là. Alors oui, c'est peut-être une démarche marketing de dire on fait un truc à l'ancienne, regardez comme Tom Cruise est beau et qui court. Certes, il y a un peu de ça sans doute, mais ça reste de la magie du cinéma, et je pense que c'est pour ça, pour moi, que j'ai adoré voir ce film. Maintenant, il ne faut pas plus réfléchir à qu'est-ce que fait Tom Cruise, ou... voilà, ça, bon, ils ont chacun leurs problèmes. Il y a Mel Gibson aussi, si on veut commencer à faire une liste de personnes infréquentables. Mais voilà, pour le reste, ça m'a fait plaisir, et c'est comme ça le principal.
Non, mais moi, je suis absolument pas contre le fait que ça soit un bon divertissement et que ce soit un film avec de bonnes scènes d'action qui est mis en scène par, je veux dire, d'une façon qui correspond à l'action avec un professionnel, parce que. J'ai jamais dit que Tom Cruise n'était pas professionnel. C'est un professionnel. C'est pas un comédien, c'est pas un acteur, mais c'est un professionnel. Donc il fait ce qu'il doit faire. Ça c'est évident. Je vois Thibaut qui a failli vomir en entendant que j'insultais son héros, mais c'est pas grave. Non, voilà. Donc ça reste un film de divertissement. Alors maintenant, c'est aussi. Il faut savoir que c'est aussi presque le. Je me trompe peut-être, mais enfin, détrompez-moi si c'est le cas. C'est presque aussi le seul blockbuster qui est sorti pendant l'été, non? Il y a pas eu grand-chose d'autre.
Il y a rien eu de mémorable.
Ouais, voilà,
ça.
C'est ça. Donc, d'une certaine manière, il est sorti au bon moment pour que on retienne ce qu'il fallait. S'il était sorti avec d'autres bons blockbusters, peut-être qu'on l'aurait oublié complètement.
De quels autres bons blockbusters parles-tu?
Hein?
De quels autres bons blockbusters parles-tu?
Il y aurait pu avoir d'autres, ce que je veux dire, il y aurait pu avoir d'autres bons blockbusters à ce moment-là. Il n'y en a pas eu du tout, même.
S'il était sorti la même semaine que Ready Player One, excuse-moi, mais.
Ne te tracasse pas, on va reparler de Ready Player One, je pense.
Voilà, donc moi je ne l'avais pas mis dans mon top 10, je ne pense pas qu'il soit dans mon top 20. Il est probablement dans mon top 10 divertissement où je vais le voir, je passe un bon moment. Bon, je passe sur les invraisemblances et puis je me suis amusé et une semaine après, j'ai plus ou moins oublié ce que j'avais vu, voilà.
Écoutez, c'est ça qui est sympa, c'est que les goûts et les couleurs, ça c'est chacun son truc, mais
exactement.
Et puis voilà, moi j'ai été bercé par le cinéma grand public et divertissement, donc du coup, je ne peux qu'être content en regardant un film comme ça. Et c'est idem pour le film Le Grand Bain de Gilles Lelouch, hein, qui est comme Ex-Aequo, on n'en a pas parlé, on a juste vite dit le titre, mais on n'a pas mentionné davantage ce film. Je suis arrivé à Cannes, c'était le premier film que j'ai vu à Cannes, donc forcément il y a eu un effet un peu émotion, mais c'est vrai que à côté de ça, je trouve que c'était une très bonne maîtrise pour un premier film de Gilles Lelouch, avec le côté un peu high concept, gros casting, grosse comédie, avec ce côté drame qui pour moi était un beau mélange. Ça tranche un peu avec les « qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu » ou des trucs comme ça. C'est une différence entre ça ou des films un peu trop dramatiques avec Mathieu Amalry qui va pleurer.
C'est surtout ça, ça fait plaisir. Renouvelle un peu la comédie française, la grande comédie française qu'on a pu voir ces dernières années. Donc ça fait du bien de voir de temps en temps un film comme celui-ci. Et, de là à le mettre dans le top, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la comédie peut-être de l'année « Made in France ». Mais pour moi, ça reste un très bon divertissement aussi, avec des très bons acteurs, des répliques qui fusent. C'est drôle, on passe un bon moment, mais pour moi, de là à le mettre dans le top 10, pas vraiment.
Oui, je rejoins un peu Constant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans mon top 10, mais je reconnais qu'au niveau comédie française, il faut dire qu'on en a vu des très, très mauvaises. Et là, on a affaire à une bonne comédie française avec des sentiments, avec beaucoup de tendresse pour ses personnages. Et ça nous change, parce que franchement, passez-moi l'expression sans être impoli, il y a quand même un gros foutage de gueule au niveau des comédies françaises actuellement. Et on a souvent des mauvaises choses
à voir. Et heureusement, Le Grand Bain était un premier film réussi. Et c'est vrai, avec un casting exceptionnel. Et on peut parler, entre autres, de Benoît Poelvoorde, qui souvent est excessif. On lui fait jouer des rôles excessifs. Et là, il était très bien maîtrisé. J'ai l'impression que Lelouch a bien fait sa direction d'acteur. Ou bien peut-être que Poelvoorde était bien encadré par tous les autres. Et il y avait vraiment un ajout. Il était à sa place comme personnage. Et ça donnait vraiment une comédie très sympathique, et on l'a vu effectivement à Cannes, et j'ai vraiment un très bon souvenir. Je suis sorti, j'étais plus content qu'en y entrant, donc c'était bon signe.
Ça fait rire Constant, c'est bien. Film suivant, numéro 6, un film de Venise, le film d'ouverture de Venise, First Man, de Damien Chazelle. Oulala Constant, oulala, qu'est-ce qu'il y a?
Non, on n'a pas aimé First Man. Je l'ai pas que j'ai pas aimé, c'est que je l'ai pas mis dans mon top, ça d'office. Mais en fait, ce que j'ai surtout aimé dans ce film, c'est la mise en scène. On a eu l'occasion de le voir en IMAX en plus. Il y a des scènes qui sont carrément. On est happé par la maîtrise de cette mise en scène. Mais après, en fait, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que je m'attendais à un plus grand film, dans le sens où c'est assez intimiste finalement. On assiste seulement à des scènes de famille en fait, et sur qui était cet homme-là, plus que sur l'envie de faire du grand cinéma en fait.
Mais les deux ne sont pas incompatibles, et je pense que les deux fonctionnent bien dans le film. Il y a des scènes d'action assez incroyables où Armstrong part à la dérive dans l'espace, ou la scène où la scène de l'alunissage est quand même pas mal de choses assez...
C'est très épisodique finalement. Et...
Ah oui, bien sûr. Mais il y a aussi cette chronique familiale qui est quand même le sujet du film plus que la conquête spatiale. Moi, je trouvais que l'ensemble fonctionnait assez bien.
Mais parce que
c'était bien équilibré.
L'histoire de famille ne renouvelle pas vraiment grand-chose à des histoires familiales qu'on a déjà vues en fait. Et c'est justement ça qui m'a un peu dérangé.
Bah, je trouve qu'ils parviennent quand même à en faire quelque chose d'intéressant sur la fin, notamment avec Armstrong et quand il est sur la Lune, où tout prend son sens en fait à ce moment-là.
Après, je suis un peu dur quand même, c'est comme pour l'autre film, je sais plus lequel. Pour Roma, c'est des excellents films, hein, j'ai pas envie non plus de les dénigrer, mais vu que là on parle du top, je me justifie pourquoi ils sont pas dans mon top tout simplement.
Eric ?
Mais moi, j'ai bien apprécié, beaucoup apprécié First Man, et je pense pour les mêmes raisons que Thibaut. C'est-à-dire que je trouve que dans le cadre de ce type de film, de ce genre de film qui est le film qu'on a vu, Apollo 11 par exemple, pour ne pas le citer, mais je veux dire, on a toujours dans ce type de film une approche qui est souvent...
Apollo 13.
Apollo 13, pardon. Et oui, c'est mieux d'ailleurs. Et en fait, on a toujours cette même approche, c'est-à-dire qu'on met en avant plus l'exploit ou les problèmes que l'on peut rencontrer pendant cet exploit technologique, et rarement une approche humaine à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'ici, son approche humaine est intéressante. Il n'éclipse pas complètement la partie technologique complexe qu'il peut y avoir à essayer de mettre un vaisseau comme ça en l'air, et puis de le faire atterrir, de le faire alunir, pardon. Tout ça, il le met, mais en même temps, il indique toutes les faiblesses de l'humain à côté de cette prouesse technologique, et ça j'aimais bien. Je trouvais que c'est une façon intéressante d'approcher cet état de fait. Il y avait aussi dans le genre, c'est pas le même film, mais je ne reviens plus sur le titre, le film où on montrait les femmes noires qui étaient à la NASA et qui...
Les figures de l'ombre.
Les figures de l'ombre. Et je trouvais que dans Les figures de l'ombre, on avait cette même approche. Merci Constant de m'avoir aidé, ma faible mémoire, mon Alzheimer.
Aucun problème.
Constant de tous les instants.
Voilà. Et en fait, dans Les figures de l'ombre, il y avait cette même façon d'aborder les choses. On abordait de nouveau la NASA, les problèmes techniques, mais on l'abordait par un biais qui était différent. Et c'est le même chose que j'ai apprécié dans ce First Man. Donc voilà. Il n'était pas dans mon top comme Constant, mais allez, c'est un film que j'ai bien apprécié.
Par curiosité, par rapport à La La Land, quand ça s'est sorti, Vous l'avez estimé comment ce travail-là de Damien Chazelle, même si c'est un film totalement différent, mais quand
c'est-à-dire
La Laine était dans votre
La Laine était carrément, je pense, mon premier ou deuxième film de l'année passée, de l'année il y a deux ans. Je
oui,
pense.
Deux ans, oui, c'est ça.
Oui. En même temps, c'est pas du tout le même sujet et voilà, je peux pas dire qu'on peut vraiment les comparer, mais voilà, Damien Chazelle fait du très bon boulot en tant que réalisateur, ça c'est indéniable.
Et toi, tu l'avais mis où, La La Land?
La La Land était effectivement dans mon top 10 l'année dernière, ça c'est clair, je ne sais plus où il était, mais il était dans le top 10 en tout cas. Je ne sais plus à quelle place il était pour être précis. Mais et en plus, pour moi, c'était une... c'était exceptionnel parce que je déteste les comédies musicales, donc... ça, ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai un problème avec les comédies musicales. Et donc, c'était d'autant plus fort de Damien Chazelle de m'avoir embarqué là-dedans, donc... Oui.
C'est voilà. Pareil pour nous, hein. Il était numéro 1 l'année passée dans notre top, alors que pourtant c'est vrai que les comédies musicales, c'est pas trop ça. Mais dans ce cas-ci, ça faisait l'affaire. Passons tout de suite à un film, alors là, mais c'est peut-être un peu moins réjouissant. Un film qu'on a vu à Cannes et qui était un peu la séquence émotion.
Pour le numéro 5, tu veux dire.
Oui, en numéro 5, excuse-moi. Un peu un film émotion, Capharnaüm, où c'était difficile de sortir indemne de cette projection.
Très content qu'il soit en cinquième position.
Ouais, il est là.
Je me souviens l'avoir vu à Cannes et j'ai eu la chance de le voir avec l'équipe du film dans la salle de projection. Et je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué émotionnellement dans une salle de cinéma. Donc j'ai été, je pense que encore le lendemain, j'étais encore en pleurs suite à la projection, tellement il m'avait emmené dans des émotions auxquelles je ne pensais pas. Voilà.
Pareil pour moi, alors que pourtant, à la base, Dieu sait que c'est pas le genre de film que j'affectionne. Mais parce qu'il y a des longueurs, parce que c'est voilà, on prend le temps d'être avec les personnages, de les voir évoluer, c'est quand même un truc assez sombre aussi. Toi, Eric, qu'est-ce que tu en as pensé de Capharnaüm?
Mais j'avais beaucoup aimé aussi. Peut-être un peu plus de restrictions au niveau du. Il y avait des moments trop longs qui m'ont un peu. Effectivement casser le film d'une certaine manière, donc là où j'aurais pu être vraiment dans le top du top avec ce film, j'avais des restrictions parce que je me suis à certains moments j'attendais qu'il se passe quelque chose et il se passait rien, je comprenais pourquoi ça durait, mais j'aurais aimé que ça aille plus à l'essentiel. Et ok, voilà. Donc, je ne suis pas aussi enthousiaste que Constant, peut-être, mais ça reste un bon film pour moi.
Oui. La seule réserve que j'avais par rapport à ce film, en effet, même si je l'adore, c'est en effet ce second acte un peu long. Et...
C'est vrai qu'il y a eu. On en a souvent parlé de la longueur du film, mais moi, ça ne m'a pas dérangé du tout, en fait. Et j'ai aussi envie de parler des deux petits-enfants qui jouent, enfin, le bébé et le jeune garçon qui sont extraordinaires, en fait. Et voir à cet âge-là qu'on peut faire transmettre autant d'émotions, c'est juste magnifique.
Je suis assez d'accord avec vous. Il est sorti quand encore le film, d'ailleurs, je suis en train de me dire, il n'est pas encore sorti ici.
Enfin, même s'il est sorti
le 28 novembre.
28 novembre.
Ah oui, c'est ça.
C'est en France qu'il est sorti plus tôt.
Ah oui, c'est juste. Oui, je suis assez d'accord avec vous. En sortant de la projection, je trouvais que c'était un des meilleurs films de la sélection cannoise, avec au final les films qui se sont détachés au palmarès, c'est-à-dire Une affaire de famille de Kore-eda, ou encore... Constant n'a pas aimé. Ou encore... là, je ne tombe plus sur le nom.
Burning.
Notamment Burning, Cold War, voilà. Donc, assez content aussi qu'il s'y retrouve, même si au final, il est un peu plus éloigné dans mon top 20. Il n'est pas dans mon top 10, mais je suis pas étonné des réactions qu'il suscite, que ce soit chez vous ou par rapport au public, parce que le film a quand même, je pense, du succès, et il me semble qu'il touche quand même, à mon avis, pas mal les gens. Donc, assez content. Je pense qu'on devrait le retrouver peut-être aux Oscars, parce qu'il me semble qu'il est dans les 5 pour les Golden Globes, en tout cas, pour le meilleur film en langue étrangère, donc ça me semble assez mérité. Je pense qu'au niveau des critiques qu'on peut lui faire, moi, c'est pas mon cas, mais je comprendrais qu'on lui fasse, c'est que ce soit un peu tire-larme, un peu trop.
Bah, le sujet.
Un peu trop les violons, quoi.
Oui, le sujet, inévitablement. C'est un sujet nouveau. C'est ce qu'on appelle aussi un peu le sujet qu'on ne peut pas critiquer, en gros. On ne peut pas commencer à dire oh, ce sujet ne me plaît pas, oh, ce sujet ne me concerne pas. C'est difficile à dire. Moi, le sujet me concernait, je le trouvais bien, mais c'est vrai que
ça pourrait ne pas concerner quelqu'un et quelqu'un pourrait très bien dire oui, moi c'est pas mon sujet, voilà, c'est pas que j'adhère pas, c'est que ça m'intéresse pas et donc je rentre pas dans le film. Mais de ce côté-là, donc on est un peu, on se dit ça va tirer les larmes, on sait que ça va être comme ça. Ceci dit, ça tire bien les larmes, c'est-à-dire ça le tire dans le bon sens.
C'est pas gratuitement non
voilà,
plus.
Voilà, c'est pas, oui, c'est oui. Pas voyeuriste, c'est pas, y a pas ce côté-là. Il y a un côté où c'est bien fait, la scénaristiquement, ça tient le coup et ça tient la route, quoi.
Parlons maintenant d'un film, parce qu'on revient à notre flop. Hein. On a fait 3 films, donc maintenant, hop, on revient au flop.
Ouais.
Numéro 2 sur le podium, un film qu'on a vu ensemble, Constant. Taxi 5 de Franck Gastambide.
Oui, alors, j'ai pas vu la fin du film, hein, mais je suis parti.
T'as rien loupé. Eric, tu l'avais vu parce que
ouais, je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu. T'as rattrapé ça.
Jusqu'à la fin de la projection.
Je suis resté jusqu'à la fin.
T'étais avec moi, sur le projet.
Ah, c'est possible. J'ai un côté un peu masochiste, donc je suis resté jusqu'à la fin.
Alors moi, c'est vraiment le cinéma de la génération Taxi,
aussi,
pardon.
J'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça. Génération Taxi, ça me correspond plutôt bien parce que c'est vraiment le genre de film que moi j'aime beaucoup quand j'étais plus jeune. Oui, j'aime toujours Taxi 1, Taxi 2. Pour moi, c'est des films, voilà, c'est des Madeleine de Proust, quoi. Tu vois, tu mets Taxi 2 avec le maillot de l'équipe de France, je suis parti, quoi. Ah non, c'est con, mais c'est vrai. Donc,
y a quelqu'un qui peut le museler, là.
Ah non, c'est vrai. Après, le 3 et le 4, laisse tomber. Mais voilà, et donc, bon, je connaissais pas bien l'univers de Franck Gastambide avant. Et je pense que c'est pour ça que je me suis fait complètement avoir par leur démarche marketing en première. Parce que j'avais acheté la fameuse édition où ils parlaient du film, qu'ils ont été voir Luc Besson, qu'ils ont été voir Farrugia, qu'ils venaient pour vendre vraiment un nouveau projet. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est le bon moment pour un taxi parce que y a tout ce qui se passe en France et tout. Enfin, c'était une interview vraiment politisée presque. Et quand tu vois le résultat, en effet, où quelqu'un vomit sur un pare-brise et après ça génère un autre vomi. Et des vomis en chaîne, et puis la caca 2000. Et voilà. Et au bout de 10 minutes, t'as compris que c'est mort. Et qu'en fait, tout est. En fait, c'est plus ma Madeleine de Proust, mais non. Mais
merci, Franck Gastambide. En parlant de ce film, on lui donne de l'importance et ça ne va pas.
Bah écoutez, si vous avez envie de pleurer ou de passer une bonne soirée, mais ivre alors, c'est la seule condition, à regarder un film.
Et encore.
Non, mais même... Regardez un film de Gérard Butler à ce moment-là, j'ai envie de dire, si on veut se faire plaisir.
Oui, on peut en parler d'ailleurs de celui-là aussi. Mais bon. Non, ce qui est bien, c'est que Taxi 5 était probablement le film que j'ai le plus mal coté de toute l'année. Quoi, je veux dire,
là, c'est incotable.
Vomi, scato, mauvaise blague, enfin tout.
Sur les gros aussi,
tout est.
Et surjoué. Banal.
Et surjoué.
Et il y a ce côté que c'est marrant quand on voit un film français qui fait ça, c'est que c'est extraordinaire, il a été cherché. Tout ce que font les comédies américaines qu'on peut détester et qui arrivent chez nous, quoi. C'est-à-dire, c'est le vomi, scato, caca, pipi,
ouais,
tout
mes
le
meilleurs
temps
amis,
qui est
etc.,
là, et toutes ces comédies américaines qui nous arrivent, eh bien, ils les ont imitées pour le meilleur et surtout pour le pire.
Et pour le pire, parce qu'en plus, ça a marché, bien sûr, mais ça n'a pas non plus... ça justifie pas un 6, quoi. Donc ça, c'est clair. Donc, à mon avis, la franchise est morte de chez morte maintenant.
Mais non, tu sais qu'il y a comment un moment ça, donné, à la fin, l'Italien, là, à la fin, dans la scène
oui,
finale,
à la fin, mais...
on se reverra. Donc,
oui,
mais bon. Non, mais attends, on se reverra. Tu vas voir. Prépare-toi.
Bah, j'ai pas envie de me préparer pour ce coup-ci. Revenons un peu à des choses plus sympathiques, plus sérieuses. 4e place, donc ça rentre, on rentre vraiment dans le vif du sujet ici. De nouveau ex aequo, c'est le dernier, je pense, du classement. Un film belge, Girl, dans ce cas-ci. Forcément, tout le monde hoche la tête en mode « Bah oui, c'est une évidence, Guillaume, de quoi tu parles ?» Et puis le film Hostiles, que je n'ai pas vu, dans ce cas-ci. Donc quel est votre avis sur ces deux films, qui ne sont pas du tout les mêmes
pour moi, Hostiles était un peu plus haut dans mon top 10, il était en 7e ou 8e position. Un super western qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir des aussi bons westerns. Et après Girl, je dis pas ça parce que c'est un film belge qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir des bons films belges, mais il y avait une sincérité, une émotion et une pureté dans la réalisation de Lucas Dont qui m'a transcendé.
Je pense que tu es un peu dur en disant qu'on n'a pas l'habitude de voir des bons films belges.
Mais c'est parce que peut-être les films belges se font trop rares en fait, pour justement qu'on s'y attache plus. Mais...
Peut-être. Moi, Girl, les deux sont dans mon top 10. Donc je suis très content qu'ils soient là, évidemment. Girl, ça a été une sacrée expérience quand même. Enfin, tous les deux. Hein. Mais Girl, en sortant, je me suis dit, waouh, ok, là quand même, le gars, il a réussi quelque chose. Donc je l'ai vu après Cannes, pas longtemps après, mais un petit peu après. Il avait déjà eu ses nombreux prix. Et bah, tu peux pas ressortir de là indemne, parce qu'il y a des scènes qui sont très très fortes. Et le film a un sale retour de bâton, notamment auprès de la communauté transgenre, parce qu'ils estiment pour la plupart que ça représente pas ce qu'est la vie d'un transgenre. Ou une transgenre. Mais je pense que c'est un faux procès d'intention, parce que l'histoire d'une personne n'est pas celle d'une autre. Et ici, c'est adapté d'une histoire vraie, donc la personne à qui tout ça est arrivé a évidemment porté le film. Donc je trouve ça un peu bizarre d'attaquer le film sur le fait qu'il représente ou non la communauté transgenre, alors que bah, c'est l'histoire d'une personne. C'est comme je me sens pas forcément représenté par tous les hommes que je vois au cinéma. C'est l'histoire d'une personne, donc ça peut plaire à une personne ou non. Bah ici, moi, l'histoire de la jeune Lara, ça m'a beaucoup touché. Je trouve que Lucas Dont a effectivement fait quelque chose de très sensible, avec beaucoup de subtilité et de délicatesse dans sa mise en scène. Une très belle musique aussi, d'excellents comédiens. Victor Polster, évidemment, en tête, dans le rôle principal, mais aussi... J'ai presque envie de dire que c'est celui qui m'a le plus intéressé dans le film. C'est le personnage du père, joué par Argué Wartalter, quelque chose comme ça, je pense, son nom. Vraiment une très très belle relation père-fille. Donc moi, Girl, vraiment, j'ai été très très client. Et Eric aussi, je pense.
Oui, tout à fait. Ben oui, on l'avait raté ensemble à Cannes, puisque... Je te rappelle, on avait choisi d'aller manger.
On a choisi d'aller manger.
Oui, on avait choisi d'aller manger. Il était 15h, on n'avait pas mangé.
Ah, on avait déjà dû voir deux films, mais en avait encore après.
Exactement. Ouais. Et même le jour d'avant, on n'avait pas beaucoup mangé, donc on s'est regardé.
Une pizza, j'imagine.
Voilà.
Avec un tiramisu en dessert.
Tout à fait. Ouais. Et tendrement, on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, et Girl ou la pizza, et on a choisi la pizza. Bon, ça se discute beaucoup, mais.
Erreur réparée.
Pardon?
Erreur réparée.
Oui, erreur réparée, parce qu'on on l'a revu après, effectivement.
La pizza ou le film
dit-il en mangeant.
Mais non, donc on a rattrapé le film après, et c'est vrai que c'est vraiment un film qui mérite d'être dans le top 10 d'à peu près tout le monde. Non pas parce qu'il est belge, mais parce qu'il y a une grande sensibilité. Et tu parlais tout à l'heure de problèmes avec la communauté transgenre. Moi, je trouve que c'est toujours des faux débats, surtout quand on fait un film qui reste un film de fiction. Tu dis c'est adapté, c'est vrai, c'est adapté de faits réels et d'autres choses, mais ça reste un film de fiction. Quand on fait un film de fiction, forcément, il y a le ressenti du réalisateur, le ressenti du scénariste, il y a tout un ressenti de tas de personnes, et donc c'est logique, on sort un peu de peut-être quelque chose qui touche tout le monde ou qui est général, mais je trouve que c'est bien mieux de faire quelque chose de précis à propos d'un sujet bien donné plutôt que de faire un truc qui plaise à tout le monde. C'est le grand truc des films, des productions hollywoodiennes traditionnelles, c'est-à-dire ça doit plaire au plus grand monde. Oui, ok, c'est bien. Girl ne plaît probablement pas au plus grand monde, mais il ne laisse un sensible personne. Ouais. Et ça, c'est super, super important. Vraiment, il y a un message, il y a quelque chose. De nouveau, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas d'apitoiement.
C'est très pudique, en fait, hein, c'est ça.
Pardon ?
Oui. Très pudique.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment, c'est extraordinaire de voir ça. Et franchement... Il mérite tout ce qui lui arrive maintenant au niveau film, puisque il est aux Oscars, si je me trompe.
Au Golden Globe.
Au Golden Globe.
Les Oscars ne sont pas encore annoncés.
Mais pas encore annoncés. Donc il est Golden Globe, donc des chances d'aller plus loin, éventuellement, on ne sait pas.
J'y crois pas, mais oui.
Mais bon, ok. Mais donc, en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Quoi.
Oui. Et le deuxième ex-aequo, c'était Hostiles, parce qu'on a beaucoup parlé
oui,
de Girl.
Oui, j'ai dit juste une phrase, mais vas-y, Eric.
Mais... Moi, j'ai adoré Hostiles.
Ou vas-y, Thibaut, oui.
J'ai adoré ce western. En général, c'est un genre que j'aime quand même beaucoup, mais je ne m'attendais pas à être happé par ce film à ce point-là. Je trouve que c'était absolument magnifique au niveau des plans. Je ne sais plus qui est le chef opérateur du film, il faudrait que je regarde. Je pense que c'est un japonais ou un coréen. Peut-être que je dis n'importe quoi, je pense que c'est un chef-op coréen. C'est réalisé par Scott Cooper, un réalisateur qui switch de genre.
Takayanagi.
Ah voilà, un japonais donc. Scott Cooper, c'est un réalisateur qui change beaucoup de style. Il passe d'un genre à l'autre, un peu l'air de rien comme ça. Et là, il a signé vraiment une très très belle œuvre avec une histoire assez classique, comme dans les westerns. Il y a une grande sphère de personnes. En fait, hein. Mais oui, c'est ça. C'est dans ce qu'il raconte, dans la façon de raconter les événements, dans la façon de porter un regard et un jugement sur ces différences entre les cow-boys et les indiens. La question de la représentation, il y a une question d'ennemi, de respect, énormément de respect. Et je trouve que vraiment, ça a été un
et de valeur assez, aussi.
Et de valeur, effectivement, avec beaucoup d'importance. Et je trouve que tout ça a été assez, très, très bien traité par Scott Cooper. Superbement bien filmé. Il y a des séquences assez incroyables. La première avec l'attaque de la maison. Elle est absolument hyper saisissante.
Elle te met directement dans le bain. En fait, je me souviens encore de la vision de presse et j'étais déjà tout mouillé tellement je pleurais.
Ouais. Et puis, superbe bande originale. J'aime bien faire attention là-dessus. C'est Max Richter.
Oui, je suis un grand sensible, mais ça, c'est comme ça.
On te connaît. Oui, très belle bande originale de Max Richter, comme souvent. En même temps, c'est un des meilleurs compositeurs actuels, je pense. Donc, moi, c'était un gros, gros coup de cœur.
Et il y a Rosamund Pike.
Et il y a Rosamund Pike.
Qui ne lâche rien.
Non. Et Christian Bale.
Oui,
et
bien sûr.
Timothée Chalamet.
Et Jesse Plemons. Tant qu'on y est. prochain film dans la liste. Ça, c'est un film qui a fait un tapage. Alors là, quand il est sorti à l'époque, je m'en rappelle encore d'ailleurs, parce qu'il était un des grands favoris aux Oscars de l'année passée. Call Me By Your Name.
Forcément. Oh non, moi je suis triste.
De Luca Guadagnino.
Mon premier, mon top 1.
Troisième, dans ce cas-ci, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Eric?
Non,
surprenant,
non,
positif,
non,
négatif
tout, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il a suscité chez vous ce film, étant donné qu'il a été...
Mais moi, il a tout suscité, en fait. non, mais voilà, en fait, je pense que j'ai pas vu cette année un aussi beau film que celui-là. Tout est beau dans le film. Ça parle du premier amour. On peut tous s'identifier au premier amour. Pour moi, le film n'est pas long, mais voilà, il raconte une histoire qu'on a tous vécue. Et voilà, et ce film m'a embarqué dans cet univers italien et j'ai été happé d'émotion par le film, en fait.
Et toi, Eric, qu'est-ce que t'en avais pensé ?
Mais moi, je suis un peu moins emballé globalement. Par contre, je suis très...
Vous devriez voir la tête de Constant. Mais...
Non, je suis très content parce que c'était un scénario de James Ivory et en fait, j'ai eu une petite bouffée de nostalgie en voyant le film. C'est-à-dire que je me suis rappelé de Maurice, Room with a View et tous ces films de James Ivory. Et c'est vrai que j'ai apprécié celui-là, mais peut-être plus parce que j'y ai revu ce que j'avais vu.
Il y avait des références évidentes.
Voilà, t'as pas pensé à ton premier amour?
J'ai pas directement pensé à mon premier amour, mais par contre, j'ai vraiment pensé à James Ivory. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné une... J'ai vraiment retrouvé, et ce qui est extraordinaire, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que Guadagnino arrive à presque reproduire même la patte de Ivory. C'est-à-dire que j'ai trouvé que sa mise en scène se rapprochait de ce que je me rappelais dans ma mémoire de Ivory à ce niveau-là. Donc voilà, c'est... Petite séquence nostalgie pour moi.
Moi, j'ai mis un peu de temps à vraiment apprécier à sa juste valeur le film. Oui, tu peux me juger, Constant. Je l'avais vu une première fois, mais pas dans des super bonnes conditions. J'étais devant un écran immense. J'étais au premier rang. Donc c'était pas génial. Je l'ai revu un peu plus tard, avant sa sortie, et je l'ai beaucoup plus apprécié. Je pense même que je l'ai revu une troisième fois. Je suis pas certain, mais soit. Constant l'a vu 5 fois, pas mal. Et effectivement, je trouve que cette relation fonctionne terriblement bien.
Et après, on va surtout parler de Timothée Chalamet, la révélation de l'année aussi, s'il vous plaît, merci.
C'est vrai. Mais oui, la relation entre les personnages est géniale. Et ce qui est pas plus intéressant que la relation principale entre les deux, mais je trouve qu'il y a toutes les relations aux alentours, entre notamment le personnage de Timothée Chalamet et son flirt d'été, la jeune fille qui est jouée par la sœur de Louis Garrel.
Esther Garrel.
Et voilà. Il y a la relation avec son père, évidemment, qui a un monologue absolument saisissant. Je pense qu'il a laissé personne indifférent, ce monologue. entre, enfin voilà,
c'est le monologue de l'année du cinéma.
Carrément.
Donc, c'est l'acteur constant qui vous dit ça.
Ouais. Non, mais c'est, qui est joué par Michael Stuhlbarg, un excellent comédien qu'on voit trop peu à mon goût, mais qui l'an dernier était quand même dans Shape of Water aussi. Donc le gars, il a fait le top du top avec Call Me. Et donc voilà, ces relations entre les personnages étaient fabuleuses. Et j'ai beaucoup aimé le film. Il n'est pas dans mon top 10, il est dans mon top 20. Mais voilà, désolé Constant.
Donc je vais te tuer.
Vas-y, reparle de Timothée Chalamet si tu veux maintenant.
Non, mais voilà, c'est Timothée Chalamet qui a été révélé dans ce film-là et il a été encore remarqué dans Beautiful Boy et je pense qu'une très belle carrière s'offre à lui en fait.
Et Lady Bird.
Et Lady Bird également, oui.
En partie. Bon, on approche du duo gagnant, là, j'ai envie de dire les deux premiers films Suspense. De l'année. Alors, on va faire le 2, puis le plus gros flop et puis le premier. Deuxième film de l'année, un réalisateur pas connu, hein, débutant, Ready Player One. Eric regarde un peu, oui, parce qu'il faut décrire, parce qu'on n'est pas filmé forcément, donc je vois Eric qui regarde un peu à droite en mode, mais pourquoi ? Personnellement, c'est un film que j'ai pas mis dans mon top 3 ou quoi, mais c'est clair qu'il était assez haut parce que c'est reste du grand divertissement made by Spielberg.
Mais justement, c'est du grand divertissement et c'est peut-être le meilleur divertissement. Pardon. C'est ce qu'on fait de mieux en divertissement.
C'est la soupe de papy, honnêtement, mais avec la soupe de grand-mère avec les effets visuels d'aujourd'hui, entre guillemets. Donc, parce qu'il n'y a que Spielberg pour faire du bon vieux divertissement avec lequel on a grandi. Et dans ce cas-ci, il applique un peu les codes du jeu vidéo, parce que, soyons très clairs, hein, non pas pour les visuels, mais voilà, quête où il faut trouver trois trucs pour aller plus loin, c'est vraiment un truc que tu as dans un jeu vidéo. Et là, il l'a fait au cinéma, dans cette adaptation de livre, forcément, qui était assez intéressante, et puis bourré de références, c'est un peu le fanfest, entre guillemets, du bon gros geek. Et c'est pour ça que c'est... C'est très jouissif.
Je pense que Thibaut est le mieux placé pour parler de ça.
Mais je suis assez curieux d'écouter Eric d'abord. Parce qu'il... Si, vas-y, allez. Ne te fais pas prier, Eric, je t'en prie.
Non, mais bon, étant le plus vieillard de l'Assemblée, on va dire. Non, j'ai aimé, j'ai apprécié comme ça, mais voilà, ça ne m'a pas plus bouleversé que ça. Je pense que et sérieusement, quand je donne le côté référence de l'âge, j'ai l'impression que c'est toutes des années que j'ai vécu, où j'ai vu ces jeux vidéo, où j'ai, voilà. Et je sais pas, je trouve que ce mélange de toutes les époques, d'une certaine manière, en le mettant dans un film de science-fiction, donc qui se révèle être quelque part plus loin dans le futur, me satisfait pas complètement. Donc je trouve qu'il y a une maestria dans la réalisation incontestable, je trouve que ça c'est très fluide, tout ça fonctionne bien. J'ai le sentiment que je sais pas expliquer, il y a des moments vraiment où j'ai l'impression d'être dans les années 80 et même peut-être avant, et quand on revient dans cette science-fiction où on est beaucoup plus loin, j'ai l'impression que ce mélange-là ne fonctionne pas pour moi, je précise bien pour moi, parce que peut-être que dans mon esprit, quand je le vois, je me dis non. D'ailleurs, ça n'est pas vrai, puisque on ne continue pas, même si on aime bien, s'il y a encore des jeux et qu'on retranspose des jeux des années 80 et qu'il y a des fans de jeux des années 80 qui jouent encore maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'on vit cette époque-là. Et j'ai pas l'impression qu'on la vivra jamais. Donc on va le dire vulgairement, je suis le cul entre deux chaises. Donc je ne suis pas rentré complètement dedans. Voilà. Donc il n'est pas dans mon top 10.
C'est triste. Mais je comprends. Mais ce qui me désole un peu quand les gens parlent de ce film, c'est que j'ai l'impression que les gens le résument souvent à un truc geek sur les jeux vidéo, alors que ça va bien au-delà de ça. Il y a des discours hyper intéressants, des thématiques qui sont abordées, qui sont vraiment très très intéressantes, qui sont certaines habituelles chez Spielberg, et d'autres, tu n'as pas l'air d'accord, Guillaume, mais soit. Et je trouve qu'il en fait avec qui parle de tout cela avec maestria et surtout une mise en scène assez incroyable. Et je suis désolé, mais à son âge, en deux films cette année, que ce soit Ready Player One ou Pentagon Papers, Steven, il remet tout le monde à,
il est au top,
il remet tout le monde à leur place et il montre qui est le patron. Quoi.
T'as un problème avec l'âge ?
Absolument pas, absolument pas. Mais ouais, voilà, je vais pas refaire toute ma critique de Ready Player One. Je pense qu'elle faisait 2 pages A4, donc si vous voulez la lire, je vous en prie. Mais je trouve que c'est vraiment un des plus grands films de ces dernières années. C'est vraiment assez incroyable visuellement déjà, mais tout ce que ça raconte, c'est beau, ça va bien plus loin que juste un film de geek avec beaucoup de références.
Ce qu'il y a, c'est que, si je peux me permettre d'ajouter une dernière chose, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a il s'adresse dans ce film, clairement, c'est ce que fait de temps en temps Spielberg, c'est qu'il s'adresse plus au jeune public, au public d'ado. Et ici, c'est le cas. Et alors, le problème, quand il fait ça, Spielberg, c'est qu'il lisse complètement son film. C'est-à-dire que c'est un film qui, à ce moment-là, ne déborde plus sur des propos adultes ou autres. C'est beaucoup plus lisse. Et malheureusement, j'ai de nouveau quelques difficultés.
Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Eric. Mais, et je rejoins aussi le point de vue de Thibaut, comme quoi c'est un très, très grand film aussi. Donc... Voilà, c'est ça.
Cœur de chaise tous les deux. Bon, cela dit, ça reste un. On va pas répéter. C'est un gros film. Le plus gros flop de l'année, je crois qu'on est d'accord. Hein. On va pas. Devinez, c'est quoi le plus gros flop de l'année en
France ? Brillantissime.
Eric, tu.
Non, je passe.
Tu passes ? Oui, on n'est pas en vidéo. non, oui, Brillantissime de Michel Larocque.
Bah, il n'y a rien à dire sur ce film.
Il n'y a rien
en fait,
à dire sur ce film. Voilà.
C'est un film à sketch, c'est j'ai Noël, l'impression, mais c'est des sketchs, on ne sait Noël, pas ce que c'est comme sketch.
C'est quand même Noël à Nice, il faut rappeler. Donc la prémisse du film, c'est que c'est Noël à Nice, mais en fait, ça dure 2 minutes que c'est Noël, après on passe à autre chose, puis il y a Cadmerat qui arrive. Et tu dis quoi ? Et très honnêtement, c'est à chier. Si vous voulez voir un film, si vous êtes étudiant en cinéma et que vous voulez voir un film...
La réalisation est juste ignoble.
Voilà, un film à ne pas faire.
Des gros zooms de lumière sur les visages.
C'est à peu près ça, quoi.
Pas propre.
Donc voilà, il y a tout ce qu'on aime chez Michel Larocque. on va pas s'éterniser là-dessus. Passons directement au premier film de l'année, enfin le meilleur film de l'année, classement combiné de nous tous. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Les trois panneaux de la vengeance, ou les panneaux de la vengeance, juste en français, je pense que c'est ça le titre. Un film qui n'a... Qui, voilà, moi, personnellement, c'est le film cette année. Je ne l'ai pas vu, je dois le rattraper, c'est vrai. Ouais, et, non, du coup, je n'ai pas vu le mettre dans mon top 10. Je dois le rattraper, mais c'est le film, de par notre situation, qu'on va voir des films, etc. Le plus de gens m'en parlent cette année. Ils me disent à chaque fois, tiens, les panneaux de la vengeance, c'est incroyable. Moi, je suis merde, j'ai pas vu. Il faut absolument que je le rattrape, du coup. Et j'ai hâte de vous écouter, du coup, pour savoir à quel point vous avez aimé ce film, ou au contraire, s'il était peut-être pas dans votre top, ou pas bien placé dans votre top, pourquoi ? Eric.
Mais moi, il était bien placé dans mon top, si je me rappelle bien, même il est premier ou deuxième. Enfin, il est assez haut dans mon top. Et alors, on parlait tout à l'heure de films du début d'année. Bah là, c'est vraiment début d'année, si je me rappelle bien. C'est le 10 janvier, je crois, ou un truc comme ça.
Oui, c'est janvier-février, je ne sais plus exactement.
Ouais, je revenais de vacances, janvier. Je pense. Non, mais c'est assez incroyable. Et il a persisté toute cette année. Et c'est vrai que c'est un film, de nouveau, extrêmement riche, qui m'a fait penser à certains films des frères Cohen, mais avec... bien sûr, il y a Frances McDormand, donc on a tendance à penser aux frères Cohen, mais pas seulement, c'est parce que c'est un film qui manipule, comme savent le faire les frères Cohen, qui manipule à la fois le drame, la comédie, le cynisme, tout mélangé, mais avec un grand, grand talent, et tout en dénonçant quelque chose, ce qui est pas évident. Il y a dans ce film quand même un fond de drame assez important, et avec ça, il y a un côté provocateur qui est capable de dénoncer tout ce qui tourne autour de ce sujet très tendu d'une petite ville qui résout pas finalement quelque chose, un drame qui s'est passé et qui doit régler ses problèmes finalement de village en fait.
Je suis carrément d'accord avec toi, Eric. Je me souviens, Jean-Paul Rouve me disait, qui n'a rien à voir avec le film, la meilleure façon de parler de drame, c'est d'y ajouter de la comédie. Et ce film-là est carrément le bon mélange entre drame et comédie. Et tout en ayant un message très très fort. Donc voilà, moi il était, je pense, en troisième sur mon top. Donc voilà, je rejoins les propos d'Eric.
Une des choses, des meilleures choses du film sont les dialogues, je trouve, qui sont particulièrement savoureux. Il y a des scènes absolument géniales, notamment quand le personnage principal va chez le dentiste ou quand elle est face au responsable de la police locale, celui qu'elle remet en cause dans le non-avancement dans l'enquête concernant le viol de sa fille. Je trouve que tous les comédiens jouent avec énormément de justesse. Woody Harrelson, il a toujours l'air de faire des types un peu bourrus, un peu mi-sympathiques, mi-pas très sympathiques. Et ici, c'est un peu ce genre de personnage, mais avec beaucoup plus de sérénité. Il est moins dans le truc un peu lourd, un peu. Je trouve beaucoup plus lumineux que d'habitude. Frances McDormand, elle est absolument géniale. D'ailleurs, elle a eu l'Oscar et c'était pas pour rien. Enfin, voilà, Sam Rockwell, pareil. Oscar aussi du meilleur second rôle, je pense. Casting absolument génial. Une des perles de cette année que j'ai vues aussi plusieurs fois. Donc, première place, très méritée.
Et des personnages extrêmement profonds. C'est des personnages qui affichent des faiblesses, des forces. C'est vraiment des personnages qui sont riches. Ce qui est au cinéma n'est pas facile à faire. Hein. On croit que c'est simple comme ça. Hop, on a des bons acteurs, on les met, on tourne et on a un truc qui est magnifique. Mais en fait, il faut que ces personnages soient écrits. Et ils sont super bien écrits. Les dialogues sont très, très bons. Donc vraiment, c'est un film qui reste de nouveau. C'est un film qui marque. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne l'a pas perdu au fil de l'année, parce qu'il était bon dès le départ et il nous a séduit dès le départ. Quoi.
Constant, tu avais une chose à dire, tu...
Ah non, je buvais les paroles d'Eric, d'accord. Je suis d'accord avec lui tout simplement.
Je pense que c'est le bon résumé, comme tu disais Eric, c'est voilà, tu démarres l'année en janvier et fin de l'année tu es numéro 1, ça veut dire que t'as battu toute la concurrence et que tu restes un film sans doute qui va rester en mémoire, rester culte et on ne peut que s'en féliciter, voilà c'est tout. Tu as quelque chose à rajouter Thibaut avant qu'on conclue cette émission? Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission, Constant, Eric et Thibaut.
Avec plaisir, j'ai dit beaucoup
merci
de bêtises,
beaucoup, avec plaisir. Plaisir.
Merci à tous de nous avoir écoutés cette année. On se retrouve du coup en 2019. Hein. On fait la bonne vieille blague. Voilà. Et on vous souhaite un joyeux Noël si jamais vous écoutez aujourd'hui le 25 décembre. Date de diffusion.
Bonne fête de fin d'année.
Bonne fête de fin d'année.
Bonne fête à tous.
Ciao, ciao. Des bisous.